Je vois comme je ne m'étais jamais attendu à voir que la bonne main du Seigneur est avec moi. Ah, elle a été si évidente quand il m'a procuré cette belle maison, en un endroit retiré. L'ange du Seigneur m'a visité sur le bateau et j'ai reçu des instructions dont je n'ose parler pour le moment. Je ferai un jour le récit complet de mon expérience sur le bateau. C'est une question si solennelle et sacrée que je ne suis pas disposé à en parler maintenant. Mais je sais une chose, Dieu désirait que je vienne aux États-Unis à ce moment précis. C'était contraire à mes désirs car je voulais rester en Australie. J'aimais les gens et mon travail là-bas. Je n'ai pas perdu mon amour pour l'Australie, ni mon intérêt pour les ouvriers australiens. On m'a montré les fautes et les erreurs d'individus qui ont exprimé leur totale confiance dans les visions, mais qui trouvaient des fautes chez l'instrument. Les sentiments naturels de leur cœur se sont révélés comme étant en rébellion contre les visions qui avaient exposé leurs erreurs et leur impiété. Au lieu de reconnaître humblement qu'ils s'étaient trompés, ils ont trouvé des fautes sur la manière dont la vision avait été présentée. Ils ont adopté la position selon laquelle une partie était juste, qu'une autre était erronée, qu'on m'avait raconté des circonstances que je pensais être révélées par le Seigneur en vision. Dieu a-t-il réalisé son travail de façon si insouciante au point que l'homme puisse le manipuler selon ses propres inclinations et au point de recevoir ce qui lui est agréable et d'en rejeter une partie? Dieu accorderait-il des visions pour corriger les erreurs de son peuple, pour ensuite se confier au jugement de celui qui erre sur ce qui est de recevoir ou rejeter une partie qui ne lui plaît pas? À quoi serviraient les visions dans l'Église si on les considérait ainsi, ou si on laissait des personnes perdues dans leurs ténèbres les appliquer comme bon leur semble? Ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit. Si Dieu redresse son peuple à travers un individu, il ne laisse ni celui qui est corrigé deviner les choses, ni le message se corrompre en atteignant celui à qui la correction est destinée. Dieu donne le message, puis prend bien soin qu'il ne soit pas altéré. Les visions sont de Dieu ou du diable. Il n'y a pas de demi-mesure sur laquelle se fonder. Le Seigneur ne collabore pas avec Satan. Ceux qui adoptent cette position ne peuvent le faire pendant longtemps. Ils font un pas de plus et considèrent que l'instrument que Dieu a employé est une supercherie et une Jézabel. Si, après avoir fait le premier pas, on leur disait quelle position ils occuperaient bientôt concernant les visions, ce serait pour eux quelque chose d'impossible. Mais Satan les conduit, à l'aveuglette, dans une supercherie parfaite concernant la véritable condition de leurs sentiments, jusqu'à les faire tomber dans ses pièges. La nuit dernière, devant la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir la forêt en feu. Les hommes ont travaillé toute la nuit pour lutter contre le feu qu'ils n'ont pas pu maîtriser avant l'aurore. Aujourd'hui, une bonne pluie tombe, la première de la saison. Nous sommes très reconnaissants pour ces averses. Nous devons maintenant rechercher Dieu avec la plus grande ferveur. Le Seigneur m'a montré que des calamités de toutes sortes s'abattront sur la terre. La fin de toutes choses est proche et tout ce que j'ai vu se réalisera. Satan a le pouvoir d'exécuter ses plans. Certains se réveillent sur l'accomplissement de ce qui va arriver dans l'avenir. Je viens de lire à nouveau ce que vous m'avez écrit au sujet de votre expérience, au camp meeting de Battle Creek. Je vous suis très reconnaissante pour ce rapport. Je suis impressionnée que de telles rencontres soient organisées en des endroits importants tels que Battle Creek. On m'a souvent assuré que ces réunions feraient une impression favorable sur les esprits de beaucoup qui ne partagent pas notre foi. Pendant la nuit, j'ai reçu des instructions sur le fait que beaucoup aient été confondus par l'expérience de quelques-uns qui se sont écartés de la foi et qui ont donné à la trompette un son incertain. Pour le bienfait de ceux qui ont ainsi été confondus, le message doit maintenant avancer avec une grande force. Il faut réitérer les preuves de la vérité afin que l'on constate que nous sommes bien fermes et sûrs en donnant à la trompette un son certain. On m'a dit ces mots. Dis à mon peuple que le temps est court. Il faut maintenant déployer un effort maximum pour exalter la vérité. Voilà plusieurs mois que le Seigneur m'indique qu'il faut opérer un changement décisif à partir de maintenant pour faire avancer notre œuvre. J'ai reçu un message après l'autre de la part du Seigneur concernant les dangers qui vous entourent, vous et le pasteur Prescott. J'ai un message pour vous. Ceux qui servent dans la cause de Dieu doivent être des hommes de prière, des hommes qui écouteront les instructions que le Seigneur donne concernant la poursuite de son œuvre. On m'a chargé d'un message pour vous deux. Il vous faut humilier votre cœur devant Dieu. Je dois vous dire qu'aucun de vous deux n'est prêt à discerner clairement ce qu'il faut faire maintenant. Je souhaite vous exprimer quelques pensées qui devraient être présentées aux ouvriers du sanatorium. Ils deviendront une puissance pour le bien s'ils reconnaissent que le grand missionnaire médical les a choisis pour cette tâche, qu'il est leur instructeur par excellence et qu'il est toujours de leur devoir de le reconnaître comme leur maître. Pendant la nuit du 26 avril, beaucoup de choses m'ont été révélées. Il m'a été montré qu'à présent, en tant que peuple, nous devons être guidés de manière toute spéciale par l'instruction divine. Je me retrouve souvent moi-même placé là où je n'ose ni affirmer, ni infirmer des propositions qui me sont soumises, car le danger existe que toute parole que je prononce soit prise comme quelque chose que le Seigneur m'a indiqué. Il n'est pas toujours prudent que j'exprime mon avis personnel, car parfois, quand quelqu'un désirera mettre à exécution ses propres objectifs, il considérera n'importe quel mot favorable que je puisse dire comme une lumière spéciale venant du Seigneur. Le grand Dieu a érigé ses puissantes structures sur les rochers de granit, dans les montagnes imposantes, dans les grottes, dans les fissures, dans les gorges, dans les amas de roches et dans les cavernes de la terre. Et avec tout cela, œuvre de la puissance divine, combien le cœur qui a besoin d'images humaines est ingrat. Les païens qui adorent la nature, l'ouvrage de la main de Dieu, sont idolâtres. Mais le culte qu'on lui rend ne frappait-il pas davantage les sens que l'adoration d'images qui porte la forme et l'impression de l'homme limité? Tout ce qui nous concerne nous enseigne, jour après jour, des leçons de l'amour et de la puissance de notre Père, de ses lois qui gouvernent la nature et qui forment le fondement de tout gouvernement sur la terre et dans le ciel. Si ces riches preuves de la puissance inégalée de Dieu n'évoquent pas à l'esprit le Créateur des cieux et de la terre, si elles ne produisent pas la reconnaissance de ces cœurs sourds et ingrats, les images et les sanctuaires érigés à des hommes morts le feront-ils ? Contemplons la nature. Voyons les champs revêtus de tapis d'un vert vif. Voyons la variété des œuvres du Seigneur. Dans tous les recoins de ce foyer que Dieu a construit pour l'humanité, aussi variés soient-ils les uns des autres, nous trouvons des preuves irréfutables de l'œuvre du grand architecte. Il y a de la beauté dans les vallées, une grandeur imposante dans les amas de rochers fissurés, une majesté grandiose dans les montagnes si hautes qu'elles semblent toucher le ciel. Et ce grand arbre avec ses feuilles délicates, les brins d'herbe, les boutons qui s'ouvrent et les fleurs épanouies, les arbres de la forêt, tout évoque à l'esprit le Dieu grand vivant.